Général, comme tous les soirs, c'est Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Un manifeste contre la répression sexuelle au Maroc. Près de 500 femmes et hommes se disent hors la loi. Une journaliste de 28 ans est en prison depuis un mois pour débauche hors mariage et avortement. Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos promesses sans lendemain. Les mots de l'écologiste Greta Thunberg au chef d'État et de gouvernement à New York. Nous sommes au sommet de l'ONU pour le climat. Au sommaire également ce soir, 9 ans depuis le début du scandale. Le procès du Mediator s'ouvre pour 7 mois. L'opération sauvetage géante des touristes Thomas Cook, reportage à Hammamet en Tunisie. Le coup de rabot sur les aides à domicile pour les seniors. Les 500 œuvres phares du musée du Quai Branly en une expo. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, de la protestation en démocratie. Comment manifester aujourd'hui? Est-ce que la rue a encore un sens? De plus en plus, notamment sur les questions de climat, s'organise une désobéissance civile. Les décrocheurs en sont l'une des illustrations. Une autre forme de lutte est-elle nécessaire pour se faire entendre, loin des organisations syndicales et des partis? Jusqu'où peut aller cette lutte? 01 45 24 7000.
France Inter.
Ils sont chefs d'entreprise, femmes de ménage, artistes, mères de famille ou professeurs, tous citoyens marocains, et ils sont près de 500, comme Leïla Slimani ou Tahar Benjelloun, à signer une tribune dans la presse du Royaume et dans les colonnes du Monde. Tribune où elle, il se déclare donc hors la loi. Il demande la légalisation de l'avortement. Une journaliste de 28 ans est en prison près de Rabat pour des relations sexuelles hors mariage. Et il demande aussi un débat, Claude Guibal, sur les libertés individuelles.
Le 31 août, la journaliste Adjara Issouni est arrêtée à la sortie du cabinet de son gynécologue. La jeune femme est avec son fiancé. Elle est accusée de relations sexuelles hors mariage et d'avortement illégal. Un crime au regard de la loi marocaine qui peut lui valoir 2 ans de prison. Pour la réalisatrice Sonia Tarab, à l'origine de cette tribune rédigée avec la romancière Leïla Slimani, c'est l'arrestation de trop.
C'est très très important de dire cette loi-là, elle est injuste, elle n'a plus lieu d'être. Et si vous voulez nous mettre tous en prison, ben allez-y, mettez tout le monde en prison, ben qui va rester?
Si l'arrestation d'Adjara Issouni, issue d'une famille d'opposants au régime, s'inscrit aussi dans un contexte politique, les signataires de la tribune rappellent qu'avec plus de 14 000 poursuites judiciaires l'an dernier pour relations sexuelles hors mariage et plus de 600 avortements par jour, tous les Marocains sont concernés.
La société marocaine aujourd'hui est divisée aussi entre une élite francophone plus ouverte et une élite arabophone très très conservatrice et plein de gens au milieu qui savent plus où être et qui être. Par rapport au message des femmes qui ont signé, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Nous, on est contre l'avortement, on est contre les relations sexuelles hors mariage, mais personne n'a le droit d'atteindre à la vie privée des gens, personne n'a le droit d'atteindre à l'intégrité morale et physique des gens. »
La tribune, relayée par le journal Le Monde, a été publiée par plusieurs médias marocains. Son nombre de signataires ne cesse d'augmenter.
Et la journaliste Adjara Issouni est jugée à Rabat donc pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. On parle de débauche au Maroc. Elle a donc été arrêtée fin août avec son compagnon à la sortie d'une clinique. On l'a dit, et le gynécologue, l'anesthésiste et la secrétaire médicale sont aussi poursuivis.
19h04 sur France Inter. Sébastien, c'était une boîte bleue de médicaments, le Mediator.
Et son nom est désormais synonyme de mort, potentiellement responsable de plusieurs centaines de décès dans les années à venir. 9 ans maintenant que le scandale a éclaté, Irène Frachon, la pneumologue de Brest à l'origine, elle fait partie des très nombreux témoins qui seront entendus pendant les 7 mois du procès qui s'est donc ouvert ce midi à Paris. D'un côté, l'anti-diabétique utilisé comme coupe-faim mais qui causait notamment des lésions cardiaques. De l'autre, le laboratoire Servier sans son fondateur, mort il y a 5 ans, et au milieu, l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé, devenue l'Agence du médicament après le scandale, et des centaines de victimes, surtout plus ou moins touchées, sur les 5 millions d'utilisateurs du Mediator en France. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Sébastien.
À l'ouverture du procès tout à l'heure, Corinne, le tribunal a tout de suite dit qu'il avait conscience de l'impatience, de la frustration de toutes les parties. On est presque 10 ans, jour pour jour, après la fin de la commercialisation du médicament.
Oui, et c'est un jour qu'une personne attend depuis particulièrement longtemps. Cette personne, c'est Irène Frachon, bien sûr, en robe d'été bleu marine. Elle attire les regards sur le parvis du tribunal. On la salue, des parties civiles la remercient. Vous l'avez rappelé, pneumologue à Brest, elle est celle qui a lancé l'alerte sur le Mediator. Elle ne pouvait pas être ailleurs aujourd'hui.
Ce qui m'a donné, dès le départ, l'énergie de porter ce combat, c'est parce que j'étais absolument convaincue qu'il y aurait un jour la justice sur cette affaire. Et nous y sommes. Donc, bien sûr, c'est un moment d'émotion parce qu'un certain nombre de victimes ne seront plus là aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une réponse de nos juges et il n'y aura plus de possibilité d'esquive des responsables.
9 prévenus viennent à la barre, à l'appel de leur nom, Jacques Servier est mort en 2014. Alors c'est son ex numéro 2 qui s'avance, puis l'ancien secrétaire général des laboratoires, et aussi le directeur de l'agence du médicament, ainsi que certains de ses anciens membres, poursuivis pour prise illégale d'intérêt. Dans le calme, malgré la chaleur, dans la salle d'audience bondée, la présidente rappelle que le tribunal est là pour dire le droit. Elle souligne l'importance du doute, des mots appréciés par l'avocat des laboratoires Servier, François de Castro.
J'ai été agréablement surpris parce que dans un procès de cette nature où évidemment la dimension humaine et l'émotion sont très importants, il me semble qu'elle a réussi à faire la part des choses en rappelant cette nécessité évidemment de s'extraire de ces pressions pour en fait juger l'affaire en droit. C'est un peu ce qu'elle dit. Hein. On ne doit pas céder à l'émotion dans un prétoire.
De l'émotion, il y en aura pourtant forcément tout au long de ces 7 mois de procès, mais pas tout de suite Sébastien. Cette première semaine d'audience sera intégralement consacrée à des questions de procédure.
Et pour aujourd'hui, l'audience est suspendue. Merci Corinne Audouin avec Romain Luquiens au Palais de Justice de Paris. Les audiences sont prévues pour durer jusqu'à la fin d'avril 2020. Les 10 ans du scandale, les protagonistes de l'affaire dont on vient de parler, tout est bien sûr sur franceinter.fr, dont le podcast Poursuite d'Inter.
Là aussi, les chiffres sont impressionnants.
Le groupe britannique Thomas Cook, 178 ans d'existence, pionnier du voyage grignoté par des touristes de plus en plus connectés, il met la clé sous la porte. 22 000 salariés menacés de perdre leur emploi, dont 9 000 en Grande-Bretagne, et autour de 600 000 clients en vacances un peu partout dans le monde. 150 000 Britanniques, 140 000 Allemands, 10 000 Français qui doivent rentrer d'ici ou qui devaient partir ailleurs. Reportage à Hammamet en Tunisie, 4 500 voyageurs Thomas Cook concernés dans le pays. Des voyageurs plus inquiets pour les Tunisiens, Maureen Mercier, que pour eux-mêmes.
Face à la mer, les touristes se prélassent au soleil. Ils ont pour la plupart décidé de ne pas s'inquiéter. Comme ce couple de Britanniques qui accueille la faillite de Thomas Cook avec le flegme qu'on leur connaît.
On a appris que notre gouvernement avait préparé une centaine d'avions pour rapatrier les gens. Donc on attend de voir ce qui va se passer.
À côté des touristes belges, plus inquiets.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de l'argent assez pour être rapatrié? Je ne sais pas. On panique quand même un peu.
Pour l'heure, les vacanciers manquent d'informations les concernant. Ils s'inquiètent avant tout pour les Tunisiens.
Ils commençaient un peu à relever la tête suite aux attentats d'il y a quelques années. Et aujourd'hui, ça risque de nouveau d'éloigner les touristes étrangers.
Mehdi Alani est le patron de l'hôtel Sentido le Sultan à Hammamet. Dans son hôtel, 200 personnes ont réservé leur voyage avec Thomas Cook. Thomas Cook ne paie plus son établissement depuis 3 mois, ce qui représente 25% de son chiffre d'affaires annuel.
C'est extrêmement grave. Le bilan économique est beaucoup plus grave pour les hôtels impactés par la faillite de Thomas Cook que pour les conséquences des attentats qu'on a eus en 2015.
Après les attentats, les clients européens avaient déserté la Tunisie. La situation est totalement différente aujourd'hui. Le tourisme a repris, l'hôtel a accueilli les clients tout l'été, mais risque bien de ne jamais être payé. Hammamet, Maureen Mercier, France Inter.
Voilà pour les touristes touchés par la faillite du voyagiste. Mais quelles conséquences, Philippe Lefebvre, pour les professionnels du secteur dans l'Hexagone?
Alors les conséquences seront multiples. Il y a les compagnies aériennes, mais aussi les tours opérateurs français qui ont vendu des voyages par le biais des 249 agences Thomas Cook et Jet Tour de l'Hexagone et qui ne seront sans doute jamais payés. L'un de ces tours opérateurs me confiait ce matin qu'il estimait d'ores et déjà à 1 600 000 euros les pertes pour son entreprise. Il y aura aussi des conséquences pour les agences de voyage qui vont devoir dépenser de l'argent et passer beaucoup de temps pour rapatrier leurs clients déjà en vacances. Certaines sont de jeunes entreprises qui n'auront pas forcément les ressources financières nécessaires pour tenir. Des fermetures d'entreprises sont donc à redouter. Et puis, plus loin de nous, il y a ces hôtels, ces clubs de vacances, parfois dans des pays à l'économie fragile, qui ne seront jamais payés, ce qui rendra très difficile, pour ne pas dire impossible, le maintien de l'activité, le paiement des salaires et même le remboursement des factures des fournisseurs de produits alimentaires, par exemple. Alors, il est trop tôt pour évaluer ces conséquences, mais au niveau mondial, cela pourrait se chiffrer en milliards d'euros.
Et puis, décidément, ça ne va pas fort dans le secteur du voyage. La compagnie aérienne XL Airways est placée en redressement judiciaire. Les repreneurs ont jusqu'à samedi midi pour déposer leurs offres de reprise. On a 5 jours pour faire un miracle, reconnaît le PDG.
Il est 19h, presque 10, Sébastien. Un discours de colère et une apparition surprise à New York.
Au sommet des Nations Unies sur le climat, qui doit relancer l'accord de Paris, l'apparition, c'est celle de Donald Trump, qui n'a pas parlé, mais qui avait dit qu'il ne serait pas là, initialement. Bonsoir Christian Chesneau.
Bonsoir.
Et le discours qu'on retient à la tribune, eh bien c'est celui de Greta Thunberg, la militante suédoise, arrivée aux États-Unis à la voile il y a presque un mois maintenant.
Oui, Sébastien, la jeune militante a eu des mots très durs contre les dirigeants de la planète. Visage fermé, d'une voix où perçait la colère. Et Greta Thunberg a accusé les États de parler dans le vide et de trahir la jeunesse.
You have stolen my dreams.
Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Nous sommes au début d'une extinction de masse et tout ce dont vous pouvez parler, c'est de l'argent et du conte de fées d'une croissance économique éternelle. Comment osez-vous ?
En écho à Greta Thunberg, Emmanuel Macron, lui, a sonné la mobilisation générale, haranguant les leaders qui participent au sommet climat et réaffirmant l'objectif ambitieux d'un monde neutre en carbone d'ici 2050.
Je colle chacun sur vous. Des actes, des actes, des actes. On ne peut pas laisser notre jeunesse passer tous ces vendredis à manifester. On ne peut pas voir notre jeunesse dans l'état de souffrance, parfois d'émotion qu'on a vu tout à l'heure, et simplement dire on fait tout bien. On est encore loin du compte, mais continuons à agir ensemble. Merci.
Autre dossier urgent pour Emmanuel Macron, le sauvetage de la forêt amazonienne. Ce matin, le président français a tendu la main au Brésil de Jair Bolsonaro pour qu'il intègre l'Alliance pour les forêts tropicales lancée aujourd'hui à l'ONU.
Merci Christian Chéneau, en direct de New York avec Olivia Branger. Emmanuel Macron qui annonce aussi qu'il aura des rencontres séparées avec Donald Trump et son homologue iranien Hassan Rouhani aujourd'hui et demain, avant peut-être un entretien entre les deux en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU. On reste aux États-Unis où le gendarme de la Bourse vient de trouver un accord avec les avocats de Carlos Ghosn. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Sébastien.
L'ancien patron de Renault-Nissan avait oublié de déclarer quelque 90 millions de dollars de revenus entre 2009 et 2018.
Oui, et en début d'année, la SEC avait entamé des poursuites à l'encontre de Carlos Ghosn, le régulateur de la bourse, soupçonnant l'ancien dirigeant de Renault-Nissan et le groupe d'avoir donc dissimulé une partie de ses revenus, à la fois salaire et indemnité de retraite, sur un montant total de 94 millions de dollars, Sébastien. Alors le gendarme de la bourse et les avocats de Carlos Ghosn ont donc trouvé un accord à l'amiable, sans se prononcer sur le fond de l'affaire. Ghosn, actuellement assigné en résidence au Japon, accepte de payer une amende d'1 million de dollars. D'autre part, pendant 10 ans, il ne pourra plus diriger une société, une entreprise américaine cotée en bourse. Dans le cadre de cet accord, Nissan versera aussi 15 millions de dollars. Pour le gendarme, pour le régulateur américain de la bourse, c'est donc une affaire classée et un poids en moins pour Carlos Ghosn, dont le procès est prévu au Japon à partir d'avril 2020.
Grégory Phillips en direct de Washington. Merci. Des chiffres encore. En France, le recours à une aide à domicile pour les personnes âgées devrait coûter plus cher. C'est un des arbitrages du budget qui sera présenté vendredi en Conseil des ministres. Les plus de 70 ans sont automatiquement exonérés de cotisations patronales aujourd'hui quand ils emploient une personne à domicile pour les courses, le ménage ou le jardinage. Avantage fiscal qui concerne près de 700 000 personnes et que le gouvernement veut désormais réserver aux personnes handicapées ou dépendantes. Cécilia Arbonna, la mesure annoncée ce matin par la porte-parole du gouvernement fait tiquer à droite, sur la forme comme sur le fond.
C'est avec son vocabulaire à la limite de la familiarité que Sibeth Ndiaye sur LCI défend cette mesure pour une justice des seniors.
Ça n'est pas un nouveau coup porté aux retraités et il n'y a pas de politique anti-vieux qui soit menée par ce gouvernement.
Une politique anti-vieux, Damien Abad, député Les Républicains de l'Ain, trouve la formule inacceptable.
On peut parler cash tout en respectant les gens. C'est insultant. C'est déplacé. Et donc moi, ce que je demande à la porte-parole du gouvernement, c'est qu'elle présente ses excuses aux personnes âgées. Comment ce gouvernement peut, dans le même temps, dire qu'il va lutter contre la dépendance et en même temps supprimer les aides fiscales qui permettent de maintenir cette autonomie-là.
Choqué également, Guillaume Larrivé, député LR de Lyon, il est un des 3 candidats à la présidence du parti.
Plutôt que de s'attaquer une nouvelle fois aux personnes âgées, moi je propose à Emmanuel Macron de rompre avec le système du RSA. Le RSA, c'est 55 milliards d'euros. Qu'on affecte une partie de cette somme gigantesque à mieux aider les personnes âgées qui en ont besoin.
La droite cherche à reconquérir le cœur de l'électorat des cheveux blancs. Au deuxième tour de la présidentielle en 2017, 78% des personnes âgées de plus de 70 ans et 74% des retraités avaient voté en faveur d'Emmanuel Macron.
Économie prévu de ce coup de rabot sur les aides à domicile, plus de 300 millions d'euros l'an prochain, 360 millions les années suivantes. C'était il y a 3 ans, à 2 pas de Notre-Dame, une berline Peugeot sans plaque d'immatriculation, 6 bonbonnes de gaz dans le coffre et la banquette arrière, des bouteilles de gasoil, des restes de cigarettes, la tentative d'attentat échoue. Le commando de jeunes femmes aurait pu faire un carnage d'après le président de la cour d'assises, où elles sont jugées depuis aujourd'hui. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Certaines avaient déjà embrassé, Charlotte, la cause djihadiste.
Elles ont entre 22 et 42 ans et rien ne les rassemble a priori. Elles ne se connaissaient pas. L'une a grandi en Algérie, l'autre au Gabon, l'autre encore dans un quartier pavillonnaire de banlieue parisienne. Et pourtant, leur parcours de vie détaillé aujourd'hui à l'audience se font mutuellement écho. Il y a Inès Madani, principale et plus jeune des accusés, errance scolaire, difficulté à trouver sa place parmi ses quatre sœurs. Il y a Sarah Hervouette, avec qui elle fera la deuxième tentative d'attentat au couteau et qui échoue dans son CAP coiffure et multiplie les petits boulots. La jeune femme qui peine, elle aussi, à trouver son identité face à un père biologique et un père adoptif tous deux absents, un peu d'ailleurs comme Ornella Gilligam, un père dont elle ne sait rien et une mère qui ne veut rien en dire. Ces jeunes femmes qui souffrent dans leur corps, surpoids pour l'une, couleur de peau pour une autre, ces jeunes femmes dont plusieurs ont confié avoir été un jour victimes d'abus sexuels, toutes, cette mère de trois enfants également, ont subitement choisi de porter le voile, se sont profondément radicalisées à l'étonnement de leurs proches, toutes sous l'influence parfois depuis des mois de Rachid Kassim, djihadiste français qui pilote une série d'attentats depuis la Syrie. Il est lui aussi accusé dans ce procès, mais présumé mort dans un bombardement. Il n'est plus là pour répondre de ses actes.
Charlotte Piret en direct des Assises spéciales de Paris. Les laboratoires d'analyse en grève toute la semaine. 2000 en France il y a 10 ans, 450 aujourd'hui. Ils protestent contre les économies annoncées par l'assurance maladie, 170 millions d'euros l'an prochain. Labo fermé cet après-midi, les après-midi par exemple à Pau et à Tarbes, parce que les nouvelles économies demandées sont un coup de poignard dans le dos pour le vice-président des laboratoires Bio-Pyrénées, le docteur Olivier Lacrampe, au micro de Maud Calves.
Ces efforts ont été consentis au prix de regroupements, de départs non remplacés, de restructurations. Et là, maintenant, on estime en fait qu'on est au bout d'un cycle et que de nouvelles baisses de l'ordre de 170 millions d'euros, puisque c'est ce qu'on nous annonce, ne sont pas encaissables par les laboratoires aujourd'hui. C'est surtout en fait encore des étapes de restructuration qui auraient lieu. On va devoir aller chercher des économies d'échelle, des mutualisations que l'on ne souhaite pas, et envoyer nos analyses soit plus loin, et par conséquent augmenter les délais de rendu de résultats, ne plus pouvoir traiter l'urgence. C'est ça qui est très impactant. Et il semble important que les pouvoirs publics comprennent que nous avons des organisations qui ont un coût, et que même si nous sommes des entreprises privées, nous avons une véritable activité de service public.
On termine avec une expo anniversaire au musée du Quai Branly à Paris. 20 ans de collection 98-2018. Et pour fêter ça, 500 œuvres iconiques sont présentées au public à partir de demain. Alors comment ont-elles été choisies? Ont-elles été achetées ou données? Qui décide? L'expo, Sophie Becherel, raconte comment se construit une collection.
Qu'ils proviennent des Dogons du Mali, des Mongs du Laos ou des Kayapos d'Amazonie, les objets conservés au musée du Quai Branly sont le fruit d'une histoire commencée au XVIe siècle avec les cabinets de curiosité. Par la suite, ce sont les ethnographes voyageurs qui collectent et rapportent, puis les intellectuels, André Breton, Apollinaire, Malraux. Ces axes fondateurs, le musée les a poursuivis ces 20 dernières années. Les conservateurs ont ainsi acheté un pagne du Congo ayant appartenu à Henri Matisse. On ne court pas forcément après le chef-d'œuvre, dit le commissaire de l'exposition Yves Le Fur, en citant ses séries de calebasse du Cameroun ou ces centaines de textiles du Mexique.
Quelquefois, ce sont des traques, des chasses qui vont prendre beaucoup plus de temps auprès de collectionneurs parce qu'il faut aussi les convaincre. Là, on a un exemple d'un ensemble d'objets taïnos qui sont des spatules vomitives. On en avait un et il manquait le reste.
Ces séries sont alors très utiles pour expliquer des usages ou préciser des styles. Chez les collectionneurs, en galerie ou en salle des ventes, les achats se font à hauteur d'1 200 000 euros par an. Quant aux archives montrées dans l'exposition, elles ont aussi le statut d'objet de collection. Le directeur de la recherche, Philippe Charlier.
Qu'il s'agisse des carnets de collectionneurs, d'anthropologues de terrain, elles sont littéralement utiles à la recherche. Et ils nous permettent de reconstituer pas à pas, parfois jour après jour, à la fois l'origine de cet objet, son contexte d'origine, jusqu'à parfois son utilisation propre, et ça permet parfois de corriger des erreurs d'interprétation.
Mise en valeur par la scénographie, ces 500 objets sont d'une beauté envoûtante.
20 ans, les acquisitions du Quai Branly, c'est donc à partir de demain à Paris et jusqu'au 26 janvier.
Eh bien, formidable Sébastien Paour, merci beaucoup. Nous, on reste ensemble pour le téléphone sonne comme chaque soir. Merci de passer la soirée avec nous et pensez au parapluie.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Maussade sera le temps, Elodie Calac, demain.
Oui, déjà on a de la pluie hein, ce soir qui va remonter vers le nord, la région parisienne, le centre. Demain, de bonnes pluies s'étendront de la Normandie et du nord de la Seine vers Poitou-Charentes, le centre, la Bourgogne, l'Aquitaine et le Massif central, avec du vent. Ce temps se décalera ensuite vers le sud et l'est du pays, mais elles faibliront tout de même ces pluies. Alors que sur un grand quart nord-ouest, jusqu'au Hauts-de-France, à la région parisienne, au centre, au nord de la Nouvelle-Aquitaine, là ça s'éclaircira. Peut-être encore une petite averse de temps en temps, mais rien de bien méchant. champs, toujours du vent. Et puis sur le sud-est, là, on aura du soleil toute la journée, mais avec un vent d'ouest sensible.
Et des températures de saison?
Souvent 7 à 15 degrés le matin, et puis l'après-midi, un petit air d'automne, avec 16 degrés à Langres, 18 à Brest et à Lille, 20 degrés à Strasbourg, 21 à Paris, Nantes, Nevers, 22 à Lyon et à Agen, 25 à Marseille, et puis 27 à Perpignan.
Et Elodie Calac de Météo France, merci.